Salut Charline.
Mais il est où Guillaume?
Il est à l'Assemblée, c'est la grosse journée de rentrée aujourd'hui.
Oh, j'ai eu peur.
Pourquoi?
Parce que tout le monde arrête aujourd'hui. Hein.
Quoi?
Jean-Pierre Raffarin quitte la politique.
Ah bon, il y était encore?
Ouais, Emmanuel Valls quitte le PS.
Il y était encore.
Bon, alors donc, Guillaume reste dans l'émission alors.
Ah bon, il y était encore.
Mais Alex!
Non, mais tu sens bien qu'il est déjà en vacances. Écoute, hier il fait des vannes sur le championnat du monde de barbecue.
Ah, mais Alex, c'est toi qui as fait des vannes là-dessus hier, enfin.
Ah oui, Barron, c'est un mauvais exemple. Mais...
Ah, ça, oui, bon alors on reçoit qui?
Marie-Christine Barron.
Ah, ça c'est bien.
Et quelle carrière, elle a joué les plus grands textes.
Du Tchekhov, du Corneille, du Tennessee Williams.
Ouais, bientôt du Fizeau.
Pardon?
Bah, dans le sketch à la fin, elle va sans doute être très fière d'ajouter mon nom à cette liste.
T'aurais pas un peu pris le boulard, toi de...
Non, je.
Ah bon, d'accord.
Bah, qu'est-ce qui te dit que Tchekhov et Corneille seraient pas fiers d'être sur une liste avec moi?
Ça c'est vrai qu'on le saura jamais.
Ben, voilà.
Et pourquoi pas Tennessee Williams?
Je trouve que c'est un peu surfait.
Ah bon,
moi, c'est très américain.
Évidemment,
c'est...
Et sinon, elle a été dirigée par les plus grands, Éric Rohmer, Christophe Honoré.
Bah, ça va la surprendre de jouer un vrai comique pour une fois.
Ne doute de rien.
Et surtout, elle a tourné avec Woody Allen.
Ah bah là, oui.
Dans Stardust Memories.
Et pour Cousin Cousine, elle a été nommée aux Oscars.
Très bien.
Il est calmé, Tchekhov.
Voilà. Non, mais je disais ça pour rire. Ouais. Je me la pétais un peu pour vous faire marrer. Ça
regarde bien rigoler. Bien sûr.
Le sketch, à la fin, c'est une obligation. C'est...
Contractuel, bien sûr. Oui.
Voilà. Parce que sinon, il me reste quelques blagues sur le championnat du monde de barbecue.
Au boulot! Bonjour la France Inter, bonjour la France des Outre-mer, on ne pense pas souvent assez à eux. Vous écoutez l'émission qui siège au cœur de l'actualité.
Elle va bientôt en vacances, je pense. Oui. Le petit message subliminal, je crois.
Outre-mer.
L'émission qui siège au cœur de l'actualité, sinon ça ruine ma vanne. Et les trois informations, voilà, qui ne veulent pas s'asseoir à côté de Manuel Valls. Refonder la gauche, c'est un peu comme gravir l'Everest en tongs. Benoît Hamon est prêt, avec ses 6% à la présidentielle. Il lance un mouvement. Vas-y, Benoît.
Je vais créer un parti politique. Je vais fonder une internationale des boys bands. Je serai invité chez Michel Field et j'irai tirer des mains sur les marchés.
Les grands-parents ne s'appellent plus papy et mamie, mais babou, nani ou mamita, car beaucoup sont encore actifs et dans ce cas, mamie devient péjoratif.
Qu'est-ce qui ne va pas, mon gros canard?
Colette, je t'ai déjà demandé de ne pas m'appeler par des noms d'animaux, voilà.
Pourquoi? C'est gentil, gros canard.
Les souvenirs de Montand et Signoret se ramassent à la pelle et ils valent un paquet de blé. Correspondances et objets personnels ont été vendus hier aux enchères, du souvenir en pièces détachées.
Du coquille, j'en ai, Saint-Ram. Total de briques. Et cash.
Ah bah, ce blond-là, tu peux le garder puis en faire des cornets à frites.
Et moi, je suis accompagnée de celui qui un jour publiera les recueils des conférences de rédaction. Ça s'appellera « Mes bijoux de famille ne sont pas à vendre », Alex Vizorek.
À la Michaudière, tous les samedis après-midi. Bonjour Charline Vanhoenacker, et aujourd'hui, autour de la table, belle équipe bien évidemment, 17h20, l'homme qui décide de la vie de ses personnages, et c'est son gros point commun avec Kim Jong-un. C'est vous, Thomas Bidguin, bonjour.
Mais bonjour Alex, bonjour à tous. Je viens vous parler aujourd'hui de quelque chose d'exceptionnel, l'exceptionnel.
Oh là là, ça va encore être rien. Sans transition donc, 17h30. Normalement, la logique fait que quand vous savez ce qu'il ne faut pas dire à une personne pour l'irriter, vous ne le faites pas. Lui, il a été monté à l'envers. C'est Guillaume Meurice, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Ben moi je suis allé à l'Assemblée Nationale ce matin pour la rentrée parlementaire pour recueillir des conseils pour les petits jeunes, par exemple les conseils de Jean Lassalle.
À la buvette, il vaut mieux consommer.
Voilà, c'est important, vous consommez à la buvette les jeunes.
Et voilà. Voilà ça, transition acceptée.
Voilà.
À 17h40, celle qui se demande si les schizophrènes alcooliques voient quadruple, c'est Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour.
De quoi on parle?
Alors aujourd'hui, comme c'est ma dernière chronique, j'ai décidé de parler de mon livre préféré au monde, en toute simplicité.
Ouais, comme ça, on va le savoir, il y a un suspense.
Et voici celle qui va présider notre assemblée. Vous démarrez au théâtre et en 69, vous débutez aussi au cinéma quand Romer vous fait jouer aux côtés de Jean-Louis Trintignant dans Ma nuit chez Maud. En 75, vous êtes nommé aux Oscar pour Cousin Cousine de Jean-Charles Tachéla. Au théâtre, vous avez joué des textes de Tchekhov, Garcia Lorca, Tennessee Williams, Giraudoux, Yourcenar notamment. Au cinéma et à la télévision, vous avez tourné sous la direction de Woody Allen, Jean-Pierre Mocky, Christophe Honoré ou Roger Vadim, bien sûr, smile et clin d'œil. Vous êtes... Et oui, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Marie-Christine Barrault.
Oh, oui, la classe.
Elle est sur France Inter. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
Bienvenue Marie-Christine Barrault, vous avez une actualité,
de dingue. Hein. Vous allez bosser cet été. Alors...
Ah oui, ça, le niveau vacances, zéro.
Eh ben oui, évidemment. Alors déjà, vous serez au Festival de la Correspondance de Grignan, qui démarre le 4 juillet, avec une lecture spectacle prévue le 5 juillet à 22h au château de Grignan. Et puis, vous irez en Avignon, la reine de beauté de
Lénane,
pendant toute la durée du festival, notamment. Et puis, vous serez aussi à la rentrée sur les planches, on va en parler tout à l'heure. D'abord, donc l'été, vous sillonnez les routes de France avec des textes. Comment ça se passe?
Oui, mais déjà l'été, moi je travaille toujours. C'est le moment où on travaille le plus, les acteurs. En tout cas, les acteurs comme moi qui sont sur le terrain, comme dirait le politique.
À la rencontre des Français.
À la rencontre des Français dans les endroits les plus éloignés des grands centres. Enfin non, je vais aussi dans les grands centres, faut pas exagérer. Mais c'est vrai que ma fille m'a souvent dit qu'il faudrait que je loue un mobilhome et que je mette... Alors je lui dis, tu me vois en train de conduire un mobilhome sur l'autoroute? Elle me dit, bah si, tu pourrais. Et puis tu mettrais toutes tes affaires dedans et puis tu dormirais pas dedans, c'est pas la peine. Tu irais à l'hôtel, mais tu prendrais juste ce qu'il te faut pour la nuit. Enfin ça, c'est les idées de ma fille. Moi, en attendant, j'ai ma petite voiture bien bourré. Non, mais c'est vrai que je bouge beaucoup. Du coup, le fait d'aller à Avignon fait qu'au moins pendant 3 semaines, je reste sur place.
Sur place.
Il y a un public d'été. C'est-à-dire qu'est-ce que les gens sont plus disponibles aussi à recevoir du théâtre dans des conditions, dans des lieux comme ça?
Alors, c'est pas trop du théâtre que je leur apporte dans ces festivals. C'est plutôt des spectacles qui sont faits de lecture et de musique. Et je pense que le public que nous avons, la plupart, à 80%, ils vont jamais voir autre chose le reste de l'année.
Pourquoi?
Parce que c'est apporté sur un plateau, c'est dans le lieu de leurs vacances ou de là où ils habitent, c'est facile. Je veux dire, on n'a pas à prendre des places pour aller à la Comédie Française, à l'Odéon, dans des théâtres où ça paraît toujours un peu compliqué, aux gens qui vont pas beaucoup au spectacle. Ils ont toujours l'impression que c'est pour les autres, pas pour eux. Tandis que là, la plupart du temps, on va dans des lieux qui sont même pas forcément des lieux de spectacle. C'est nous qui en faisons des lieux de spectacle. Mmh. Et du coup, ça crée un lien immédiat, une proximité immédiate avec un public qui en plus a le temps, parce qu'il fait beau, c'est le soir, c'est mélangé avec, une buvette, une cantine et tout, c'est la fête, quoi.
Oui. D'où l'importance d'aller, de faire cette démarche.
Si nous, on n'y va pas, il se passera rien.
Et ce sera le cas, par exemple, donc à Grignan, Festival de la Correspondance, du 4 au 8 juillet. Votre lecture spectacle, c'est le vendredi 5 à 22h. Correspondance de Madame de Sévigné à sa fille, qui va résonner avec le lieu, alors, si j'ai bien compris.
Ah ben plutôt, oui. Mais cela dit, on ne peut pas dire que Grignan soit un petit endroit. C'est un énorme château dans la Drôme, où habitait donc Madame de Grignan, qui était la fille de Madame de Sévigné. Et donc, Madame de Sévigné, il y a beaucoup séjourné, parce que Madame de Sévigné était une mère... On va dire quasiment une mère juive, quoi. C'était vraiment, dès que sa fille s'éloignait, elle était dans les transports de drames. C'est affreux, je ne peux pas vivre sans vous, mon cœur s'arrête. Enfin, c'était terrible. Une femme très, très possessive, mais qui exprimait ça avec des mots tellement sublimes qu'on lui pardonne. Sauf que Madame de Grignan, elle avait quand même mis une petite distance entre elle et sa mère. C'était peut-être pas fortuit. Le château est sublime et il y a ce festival de la correspondance qui a 22 ans maintenant. Oui. Et chaque année, il y a un thème. Et cette année, le thème, c'est les rapports à l'intérieur des familles. Et donc, ce sont des lettres de Madame de Sévigné à sa fille qui sont vraiment très, très branchées sur, justement, le rapport mère-fille.
Et ce sera un festival présidé par Richard et Romane Boringer, qui se tient du 4 au 8 juillet, avec Marie-Christine Barraud en collecture le vendredi 5 juillet. Et on vous retrouvera
Je ne crois pas que ce soit un vendredi le 5 juillet.
Non?
Je crois que c'est un mercredi.
Ah, est-ce qu'on peut vérifier? Je demande à l'équipe.
Vérifier assez vite. Hein.
Merci.
Non, oui, non. C'est un mercredi, le 5 juillet.
C'est un mercredi.
Alors, moi, j'ai un agenda.
Je suis désolée, je vous ai fichu vos vacances.
Bah, ouais, vous avez un agenda dans la tête.
Moi, j'ai un agenda dans la tête.
Et on vous retrouvera au Théâtre Rive Gauche à la rentrée à partir du 1er septembre dans Confidence de Jody Pietro. Donc, au Théâtre Rive Gauche, une adaptation d'Éric-Emmanuel Schmitt, une mise en scène de Jean-Luc Moreau. Et vous serez sur scène avec Alain Douté, Arthur Fenwick et Claudia Dimier. Ça, c'est pour la rentrée.
J'ai déjà beaucoup répété la pièce, on la répète encore en ce moment. Là, aujourd'hui, je l'ai répété toute la journée et demain. C'est une pièce, je pense que c'est une pièce qui va beaucoup plaire au public parce que c'est une pièce à la fois, mais hilarante. Même nous, il y a des moments, on n'arrive même pas vraiment à dire le texte, tellement c'est drôle. Mais en même temps, avec un sujet qui pourrait aussi bien être traité autrement, ça pourrait être un drame.
Qui est le sujet?
C'est l'infidélité du fils traité par les parents. C'est-à-dire qu'il y a les parents, le fils, la fille, le bébé, et le fils qui est en train de d'avoir une relation hors conjugale, et la mère et le père qui savent pas quoi faire pour éviter ça, pour éviter le drame. Donc ils s'immiscent pas mal, et de façon très différente, le père et la mère. Et c'est donc à la fois très très drôle, mais en même temps, c'est vrai que le sujet est un vrai sujet.
De la comédie, donc. Avant le sketch d'Alex Vizorek à la fin, évidemment.
Attention,
mais bien sûr, Marie-Christine Barrault n'attend que ça avant de prendre la route des vacances. Il s'appelle Bror Gunnar Johnson, il chante The Bear Snake, c'est la playlist France Inter, programmation musicale Djoubaka, car oui, vous êtes sur France Inter.
Ah mais oui,
et quelle coïncidence, Marine-Christine Barrault aussi est avec nous.
C'est pour ça, tombe bien, c'est
l'invité. Ah ouais, c'est vrai.
C'est la meilleure radio.
Marie-Christine, merci. Oh là là. Et vous allez prendre les routes de France pour aller d'abord à Grignan début juillet au Festival de la Correspondance, puis vous vous posez trois semaines à Avignon avec la Reine de Beauté au Festival, avant le Théâtre Rive Gauche à la rentrée. Quelle actu, Marie-Christine Barrault, pour vous entourer.
Eh bien, oh, Guillaume Meurice.
Oui, c'est moi.
Et Thomas Bidguin entoure Marie-Christine Barrault. Et en face, il y a Juliette Arnaud.
Et un journal très complet.
De qualité.
Ah.
Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train.
Vous mentez. Le journal de presque 17h17.
Ça vous reprend.
C'est un mensonge.
Et on commence par les titres.
C'est la consternation. Manuel Valls quitte le PS.
C'est un des divorces qui m'attriste le plus depuis celui entre Brad Pitt et Julia Roberts.
Mais Alex, Julia Roberts, elle a jamais été en couple avec Brad Pitt.
Oui, mais Manuel Valls n'a jamais été au PS non plus.
C'est vrai. François de Rugy a été élu président de l'Assemblée.
Oui, finalement, c'est cohérent. Une girouette au perchoir.
Et de vrai.
Mais oui, je mets le paquet avant les vacances. Question brève.
Gardez votre paquet où il est.
C'était pas écrit ça.
Les, vacances,
les petites choses grivoises, hein, vous les gardez pour votre dîner de famille. Allez.
Et on commence.
C'est Vizorek qui dit ça.
Vous savez, quand on passe toute la journée avec Vizorek dans le bureau, on finit comme je viens de le faire.
Voilà.
Et on commence donc par Manuel Valls.
Manuel Valls qui quitte le PS après 37 ans de bons et loyaux services. Enfin, alors, 37 ans de bons services.
Ouais, voilà.
Enfin, 37 ans de services.
Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Et il l'a dit ce matin sur RTL.
Je quitte le Parti Socialiste ou le Parti Socialiste me quitte.
Voilà, on ne sait pas trop qui quitte qui. En revanche, pour ce qui est de sa dignité, on sait qui a quitté l'autre.
Passons à l'Assemblée nationale, oui, avec son nouveau président.
Le charismatique François de Rugy.
Oui, oui. Et puis il y a un nombre record de 7 groupes. Oui. Mais après le départ du sénateur des Verts, André Gattolin, vers La République En Marche, il n'y a plus de groupe écolo au Sénat.
C'est donc La République En Marche qui recycle les sénateurs et qui met les autres à la poubelle.
Côté insoumis, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a été élu président de groupe.
Oui, à l'unanimité, mais bon, on sait que l'homme est assez humble et ça l'ennuyait.
C'était très embarrassant parce qu'il n'y avait pas de candidature en face de la mienne. Donc c'est toujours un peu gênant et une situation inhabituelle pour moi. Alors donc, je crois que je dois regretter, c'était unanime. Alors on a fait ce qu'on a pu hein, pour essayer d'obtenir un vote contraire ou une candidature, rien n'y a fait.
Bon, je pense qu'il était au second degré et on salue l'humour de Jean-Luc qui est en belle forme.
C'est un bon acteur. Oui. Côté Les Républicains constructifs, oui, hein, il n'y aura pas un président mais deux coprésidents pour le groupe.
Voilà, c'est parfait. Ils n'arrivent déjà pas à se mettre d'accord entre eux.
Et en dehors de l'Assemblée, il se passe également des choses politiques.
Hein. Oui, Jean-Pierre Raffarin.
Et il a annoncé qu'il arrêtait la politique.
Et oui, donc maintenant, pour entendre des déclarations énigmatiques, il ne reste plus que le père Fouras en télévision.
Raffarin quitte la politique pour créer une ONG pour la paix.
Oui, une ONG internationale et on attend donc avec impatience sa première déclaration. Win the peace, need the war to win against the war.
Quant à Ségolène Royal, elle a accepté la proposition d'Emmanuel Macron de devenir ambassadrice pour les pôles Arctique et Antarctique.
Oui, enfin en même temps, c'est pas comme si elle avait le choix. Hein. C'était pôle Nord ou pôle Sud ou pôle emploi. Donc, en même temps, c'est idiot de la nommer ambassadrice des deux pôles. Parce que quand elle va devoir aller de l'un à l'autre, ça va lui faire c'est un bilan carbone de merde et ça, c'est bon pour aucun des deux pôles. Donc,
passons au comité d'éthique. Il s'est déclaré favorable à l'ouverture de la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples lesbiens et aux femmes seules.
Ah, pour les femmes seules aussi.
Oui.
Ah bah ça, c'est Rachida Dati qui doit être déçue à quelques années près. Ça lui aurait évité pas mal d'histoires.
Musique à présent. Oui. La tournée de The Voice n'aura pas lieu, faute de public.
Oui, la tournée de Black M aura bien lieu, faute de goût.
Ah non, allez, des brèves.
Et des brèves. Attention, États-Unis, un homme enterre son fils qui réapparaît en vie quelques jours plus tard. Jésus de Nazareth porte plainte pour plagiat.
Une dernière.
Et on reste un peu en lien. Un avocat kényan poursuit Israël pour avoir tué Jésus.
Non.
Je veux pas trop m'avancer, mais je pense qu'il y a prescription.
Et ce premier sujet, en compagnie de Marie-Christine Barrault, par quel bout reconstruire la gauche ? Il y a par les insoumis, par la cave de Solferino, ou par Benoît Hamon qui lance son mouvement le 1er juillet. Il propose un mouvement qui dépasse le PS. Et dépasser le néant, ça doit être bien compliqué.
Surtout, monsieur Dockland, vous attendez bien qu'on ait quitté l'île avant de tout faire péter.
Derrière.
Tout faire péter.
Oui, mais je veux bien vous laisser jusqu'à l'aube, mais après, Potemkin et moi, on fait tout péter, les gars. Ben, je suis désolé, les agents passent après la mission. Je dirais même, la mission passe avant les agents.
Ça s'est passé comme ça. C'est Double Zéro, un extrait d'un film de Gérard Pires, parce qu'on a des références culturelles dans cette émission. Parce que bon, il y a un moment, Woody Allen, Louis Jouvet, tout ça, bon. Marie-Christine Barrault, vous qui regardez l'actualité, est-ce qu'il y a un côté romanesque, voire littéraire, à l'histoire de la gauche ces derniers mois ?
Mais
est-ce que vous l'avez regardé ?
L'histoire, la politique depuis 6 mois, je suis mais scotchée devant mon poste. Alors malheureusement, comme je suis très occupée dans la journée, c'est tout en replay à partir d'une heure du matin. J'ai un déficit de sommeil inimaginable. Je trouve que, sur le simple plan théâtral et dramaturgique, on n'a jamais eu un spectacle pareil, mais jamais. Et tous les jours, il y a un retournement, une surprise. C'est invraisemblable. Aucun dramaturge est capable de nous faire la... Même Shakespeare, j'ai l'impression qu'il est dépassé. Il est dépassé.
Est-ce qu'à Grignan, vous aimeriez lire les correspondances entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon?
Vous croyez qu'ils se parlent?
Je ne pense pas. Ça va être très court.
Les non-correspondances.
Mais l'élection d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est l'occasion de réveiller un peu la gauche? Est-ce que vous êtes curieuse de voir par où elle va renaître, si elle peut renaître, par quel bout, qui peut être là?
Là, franchement, aujourd'hui, à part Madame Soleil, je ne vois pas qui pourrait nous répondre à cette question.
Bon, on pensait à vous, mais on est déçus.
À moi?
Ouais.
Ah oui, j'ai pas le temps. C'est pas que j'ai pas les moyens, mais c'est que j'ai pas le temps.
Il y a la caravane à faire tourner.
C'est vrai. Benoît Hamon, avec ses 6% au présidentiel, donc il lance le 1er juillet un mouvement qui s'appelle le mouvement du 1er juillet. Il part de 6%.
Déjà, il y a cohérence.
Mais il part de 6%. Il est audacieux, genre maintenant,
tout était perdu, comme dirait Juliette Arnoux tout à l'heure. Vous avez dit, ben, tout est perdu, peut-être tout est possible.
Moi, j'aime bien Benoît Hamon. Je ne pense pas qu'il puisse faire quoi que ce soit, mais enfin, je ne sais pas.
Ouais, ouais, dire. C'est sympa de vous compter comme ami.
Je le trouve très, très sympathique. Oui. Très sympathique. Le peu que je l'ai croisé, j'ai trouvé très sympathique. Et puis, il y croit. Mais bon, je ne suis même pas sûre qu'il faille repartir dans cette direction. Je ne sais pas.
Il faudrait qu'il prenne des
vacances.
Il faut
inventer quelque chose.
Mouvement du 1er juillet, il y a un peu cette idée de vacances. Il y a une idée bison futée dans ce truc-là. Il y a l'idée d'un nouveau départ, tu vois, mais tu sais pas où.
Quelle que soit la vie du parti en question, ça s'appellera toujours le 1er juillet.
C'est vrai.
Toujours une notion, effectivement, de vacances.
Il faut trouver l'itinéraire bis de la gauche, en effet. Vous qui êtes en Avignon, puis un peu sur les routes de France cet été, vous allez continuer un petit peu à vous informer? Vous coupez complètement de l'actu ou vous continuez un peu à regarder?
Ça va être dur parce qu'à Avignon, j'ai un spectacle à 5h, puis un autre à 9h. Donc déjà, pour la télé, ça va pas être terrible. En plus, j'habite dans un appartement loué, je suis même pas sûr qu'il y aura la télé. Je vais regarder sur mon téléphone.
Vous allez vous couper un peu et puis reprendre le train en marche. Hein. Ouais. Et en Avignon, ce sera la Reine de Beauté au festival pendant 3 semaines.
La Reine de Beauté de Lénan, c'est Lénan. Ça le titre.
Je croyais que c'était l'auteur.
Mais non, c'est pas l'auteur.
Vous jouez deux fois la même pièce?
Non, j'ai deux spectacles différents.
Voilà. La Reine de Beauté l'après-midi et Lénan le soir. Une pièce de qui?
Non, le soir, c'est des lectures avec pianiste.
Ah!
Avec un pianiste, Franck Siup, et des lectures soit de Saint-Exupéry, soit de Christian Boba.
Voilà, on est au complet.
On vous retrouve aux ambassadeurs à quelle heure alors du coup? C'est la boîte de nuit où tout le monde va danser.
Oui, surtout moi. Le fait que j'y aille pas, à mon avis, va créer un problème.
Moi, je vous attends pour un twist.
Ils vont plus reconnaître la boîte.
Je prends la bouteille de vodka déjà.
Vous serez en Avignon.
Je serai au chapeau d'ébène, moi, à 15h10. Vous pouvez venir me voir avant de vous chauffer.
À 15h10, mais c'est trop près. Par contre, quand vous avez fini, vous pouvez venir voir la Reine de Beauté.
Avant les ambassadeurs.
Ils commencent à traiter alors que le festival n'est pas commencé.
On a perdu les auditeurs. Hop, on va les récupérer tout de suite.
On va tous venir
avec. Évidemment, avec l'arrivée de Thomas Bideguin.
Ah oui, c'est ce qu'on compte là-dessus.
Il n'y a pas de pression.
C'est le mouvement du 27 juin, on a lancé
ça. Tac. Ben voilà, donc une fois de plus, c'est à moi. Je reviens frais comme Salvador Dali. Pour vous parler de storytelling, de toutes ces petites pelletées de récits qui font les grands tombeaux de l'histoire. Et sauf que moi, c'est promis, c'est pour la dernière fois de la saison. C'est pas comme Dali. Voilà, alors le thème du jour, c'est l'exceptionnel. C'est un argument très utilisé, l'exceptionnel, dans l'univers du storytelling. Où on voit trop souvent la curieuse idée que pour vendre une histoire, elle doit avoir quelque chose de vraiment exceptionnel. En tout cas, c'est comme ça. En France, on a le goût de l'exceptionnel. Si on veut vendre un truc, il faut que ce soit exceptionnel. Alors qu'en Belgique, par exemple, si on veut vendre un truc, il faut le faire frire et le tremper dans la mayonnaise. Alors qu'ici, non, c'est différent. Déjà, en France, on a un président exceptionnel. En tout cas, ici, à Radio Matmut, les avis sont unanimes. Il faut dire quand même qu'il est fort et qu'il n'a pas pris le pouvoir depuis un mois que, déjà, on résout l'affaire du petit Grégory. Et donc, bam, prochain coup, il s'attaque à l'assassinat du duc de Guise et, je crois, pourquoi à la défenestration de Mike Brandt. Enfin bon, oui, nous avons un président exceptionnel. Il est jeune, il est fringant. Et quand il évoque le sujet des migrants, il appelle, je cite, à la plus grande humanité. Il dit, c'est notre devoir et notre honneur. Bon, sauf que pendant ce temps, son ministre de l'Intérieur s'arrange pour qu'on ne puisse pas leur distribuer à manger aux migrants ou même leur donner de l'eau à boire quand la canicule les accable. Et quand il fait son premier déplacement à Calais, ce ministre de l'Intérieur-là, malgré les exhortations du défenseur des droits, il fait, comme seule annonce, il dit qu'il va envoyer 2 compagnies de forces mobiles supplémentaires dans le secteur. Voilà. Pas grand-chose d'exceptionnel, donc, en fait. On est sur du, comme son nom l'indique. Parce qu'on a un type qui s'appelle Toubon, et qui est défenseur des droits, et qui parle de déni d'humanité. Et de l'autre côté, on a un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Colomb, et qui se comporte comme un trou du cul. Tout est normal. On voit que, quand on en fait le tour, le problème dans le storytelling, merci madame, le problème dans le storytelling avec l'exceptionnel, c'est qu'il ne le reste jamais vraiment longtemps. C'est comme l'affaire Fillon, une affaire qui était
tout exceptionnel, un sombre complot ourdi dans les arcanes du pouvoir par un cabinet noir à la botte et à la solde de François Hollande. Et puis non, ben finalement non. Deux mois plus tard, dans le JDD, François Fillon il dit qu'il est plus sûr de qui est le coupable vraiment, que peut-être qu'ils sont plusieurs. Enfin voilà. Donc on n'est plus dans l'exceptionnel, on serait plutôt dans ce qui ressemble à la fin d'un mauvais épisode de Scooby-Doo. C'était le directeur du cirque. Non, c'était Monsieur Pingleton. Non, c'est le directeur de la patite. Non, bah, on ne sait pas. Non, on ne sait plus.
Il n'y a pas de mauvais épisode de Scooby-Doo, mon gars.
C'est vrai, il n'y a que des épisodes de Scooby-Doo. On ne sait plus, en effet, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas grand-chose de plus lassant que l'exceptionnel. En tout cas, c'est ce que disait ma première femme. Non, au procès. Alors, les journalistes seraient bien inspirés de s'en rendre compte qu'ils nous vendent de l'exceptionnel à longueur de manchette. L'affaire Bayrou, le raz-de-marée des nouveaux députés de 26 ans habillés comme des conducteurs Uber, ou même les jumeaux de Beyoncé et Jay-Z. Oui, parce que la famille Z s'est agrandie. Ils ont eu un garçon et une fille qui ressemblent, il paraît, à Jay-Z et Beyoncé. Donc, c'est ce qui fait la mesure de l'exceptionnel. C'est en général la médiocrité de l'observateur. Oui, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse dans les histoires, ce qui va nous accrocher, ce n'est pas ce qui est exceptionnel, c'est ce qui est particulier. Et c'est en se rapprochant d'un personnage, en découvrant ce qu'il a de particulier, que l'on va s'attacher à lui. Pas en le couvrant de roulements de tambour et d'effets de trompette. Kierkegaard avait écrit là-dessus une théorie que j'aime bien citer, qui s'appelle l'universel singulier, et qu'on développera un jour si on me réinvite. Voilà. La belle histoire, elle n'est pas exceptionnelle. Elle est particulière. Une belle histoire, c'est celle de Monsieur et Madame Z dans leur manoir, émus par les sourires et les gazouillements de leur nouveau-né. Une belle histoire, c'est celle de ceux qui, sur le parking d'une grande surface, juste avant la fermeture, chargent le coffre de leurs 405 de bouteilles d'eau, mettent les enfants à l'arrière, vérifient qu'ils ont bien attaché leur ceinture et qui, à la tombée du jour, contournent le dispositif policier pour aller apporter à boire à ceux qui n'ont plus rien. Voilà. C'est ça aussi la place qu'occupent les histoires dans nos vies et dans nos cœurs. Une place peut-être pas exceptionnelle, mais tout à fait particulière.
Oh. Thomas Bideguin, merci Thomas.
Moi, si on peut faire plaisir.
Oui. Vous êtes sur France Inter, en compagnie de Marie-Christine Barrault, jusqu'à 18h, avec des chroniqueurs exceptionnels.
Particulier.
Laisse-moi zoom zoom zen. Laisse-moi zoom zoom zen. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend ting ting ting. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend ting ting ting. Girl, t'es sexy, viens voir Co-City. Original ragaman dans la ville de Paris. Girl, t'es jolie dans ton Versace. Viens t'amuser avec un DJ top celebrity. Et c'est one bouge carré sur le groove. J'aime les girls, surtout quand les girls move. Move up, rough comme une louve. Bouge ton corps de la tête aux pieds. Et là je t'approuve, c'est move up, girl, want ton body. Montre-leur que t'as pas peur d'exciter tous les bandits. Wine comme une vipère, si t'as le savoir-faire. T'inquiète pas, y'a pas de galère, je le dirai ni à ton père ni à ta mère. Ondule comme un ver de terre. Jette-moi dans les yeux ton regard de panthère. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend ding ding ding. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend ding ding ding. Ouais, vas-y, Joe, explique-leur.
Ça se passe à l'arrière d'une Merco
Benz Benz Benz. Ouais, du côté de Saint-Denis. Je te garantis qu'il y a des dingues de dingues. T'es ma mire, je suis la flèche que ton entrejambe attire. Amour de Lufia, on vivra en outre, toi et moi. Mais ce soir, faut que ça brille, faut qu'on enquille. Je veux du freestyle, je veux que tu réveilles, que tu stimules mon côté bestial. Bon, baby, monte sur moi. mon Seine-Saint-Denis-Fonc. J'te la ferai façon, j'tanque. Putain, y'a que ça qui me rend junk. À ton contact, je deviens liquide. C'est comme un trou intemporel. Bouge ton corps de femelle. Regarde le long de tes hanches, je coule. Ondule ton corps, baby, ouais. Ok, ça roule. Je deviens insaisissable à ton contact. L'air est humide. C'est comme une étincelle dans ton regard avide. Laisse-moi zoom, zoom, zoom.
Ouais, mais là on descend de la Benz. Brigitte sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Marie-Christine Barrault qui s'apprend à prendre la route, qui s'apprête à prendre la route du 4 au 8 juillet au Festival de la Correspondance de Grignan. Lecture des correspondances de Madame de Sévigné à sa fille, la comtesse de Grignan. Et puis en Avignon avec la Reine de Beauté de Lénane pendant 3 semaines. Et à la rentrée aussi au Théâtre Rive Gauche dans Confidence avec Alain Douté. Marie-Christine Barrault, peut-être connaissez-vous cet individu qui est à côté de vous. En tout cas, il est connu comme le loup blanc à l'Assemblée nationale.
Oui, et youpi, c'est la rentrée des classes aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alors, c'est l'équivalent de Noël pour moi, voilà, ou d'une visite à Disneyland Paris pour Michel Fourniret. Rentrée des classes, parce qu'il y a pas mal de petits nouveaux et qui sont tous dans la même classe, la classe CSP+, on l'appelle. Ils étaient tous réunis en début d'après-midi pour élire leurs délégués et ils ont choisi le meilleur d'entre eux. Et le meilleur d'entre eux, c'est François de Rugy. C'est pour vous dire quand même qu'il y a un certain niveau. François de Rugy, donc on le connaît, hein, la présence scénique de Jean-Marc Ayrault, la constance politique de Manuel Valls. Bref, le rêve à portée de main. Il a d'abord été élu par le groupe La République En Marche, hein, pour les représenter, c'était ce matin. Alors qu'en pensent les nouveaux parlementaires? On commence avec Philippe Berta, c'est un nouveau député de la majorité présidentielle.
Moi j'ai pas de commentaire particulier à faire.
Mais vous avez voté quand même ce matin pour lui, vous étiez dans le groupe?
Ah moi je ne suis pas dans le groupe En Marche, je suis Modem.
Ah ben voilà, c'est pour ça, voilà. Moi j'étais persuadé qu'on ne s'y retrouve plus maintenant.
Pourquoi on ne s'y retrouve plus?
Oh, bah, c'est trop compliqué, du Modem, il y a du Centre, il y a du En Marche.
C'est une belle majorité diverse.
Oh, c'est un beau bordel, surtout, dis donc. Oh, Macron, il a tout disrupté l'Assemblée, là. Où qui sont mes petits députés En Marche? Petit, petit, mignon, mignon, mignon. Aïe, aïe, j'en ai un. J'en ai un, Jean-François Cesarini. Ça y est, député du Vaucluse. Alors, j'ai pu lui poser une petite question.
Bon, est-ce que c'est vraiment le renouvellement, ça, du coup, de Rugy?
Non, mais les deux grands enjeux de ce quinquennat, c'est le numérique et l'écologie. Pour le coup, c'est un signal fort par rapport à l'écologie.
Ah, mais moi, je pensais qu'il y avait un besoin de renouvellement.
Oh, il n'a jamais été président non plus, voilà, c'est pas non plus un vieux de la vieille.
Non, c'est pas un vieux de la vieille, mais ça fait quand même 26 ans qu'il fait de la politique, hein, François. Le plus jeune député était même pas né, et le plus vieux sénateur était déjà mort. Alors, comme j'avais affaire à un nouveau député, j'ai voulu le tester sur son positionnement sur les réfugiés, Thomas en parlait tout à l'heure, parce qu'on a d'un côté donc Bisounours Macron qui veut leur faire des câlins, et de l'autre côté Gargamel Colomb qui les prive d'eau et de nourriture. Alors, qu'est-ce qu'il en pense, Jean-François?
Vous vous situez où, vous, dans ce discours-là, en tant que député d'En Marche?
Je pense qu'il va y avoir des grands débats effectivement au sein du groupe, des grands débats au sein de l'Assemblée, et c'est normal, on est là pour ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que là aussi on nous dit bah, vous allez être des godillots, en gros on va vous dire de faire quelque chose puis vous allez le faire. Et que peut-être que le risque inverse va exister aussi, d'avoir non pas des frondeurs, mais des gens qui ont des vrais débats ouverts, précis. Là-dessus.
Attention parce que vous répondez pas à ma question.
Non, mais sur la question de fond, je préfère. Je préfère qu'on la tranche collectivement cette question-là.
Voilà, on va plutôt la trancher collectivement. Hein, donc les réfugiés, si vous nous écoutez, c'est bon. Ils font une couve-call, hein, puis on fera un feedback un petit peu plus tard. Voilà, hein, vous désespérez pas. Dans quelques mois, on saura si vous avez le droit de boire ou de retourner crever dans votre pays d'origine. J'ai d'ailleurs rencontré ce matin un député des Français de l'étranger, Meyer Habib. Alors Meyer, où le situer politiquement?
Au-delà de tout parti politique, moi ça a toujours été ma devise. À l'époque, j'avais voté le pacte de responsabilité et je devais voter à l'Ole Macron, alors que je suis clairement à droite et au centre, on va dire au centre. Et aujourd'hui,
clairement à droite, mais au centre.
Au centre droit, on va dire exactement comme ça. Voilà, je suis clairement au centre droit.
Voilà, clairement au centre droit, décalé sur la gauche de la droite. Voilà, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même, pour être très précis. Alors, Meyer, il en est là. Meyer Habib, il est franco-israélien et on le connaît bien depuis sa réélection parce qu'il avait fait une petite vidéo dans laquelle il remerciait Dieu Tout-Puissant. Il a donc clairement été aidé, hein, n'est-ce pas?
J'ai remercié, je ne sais pas s'il a été aidé, j'ai remercié le Dieu Tout-Puissant.
Dans une si vous l'avez remercié, c'est qu'il vous a aidé, non?
Mais bien sûr. En Angleterre, c'est God Save the Queen en permanence. Aux États-Unis, une God We Trust.
Mais nous, on a la loi de 1905, justement.
Mais il n'y a justement pas de contradiction. C'est la liberté de conscience, la liberté de croyance.
J'ai dit est-ce que c'est pas un peu de la tricherie si vous avez été aidé par Dieu, finalement?
C'est une bonne question. Là, je vais méditer à votre question. C'est une bonne question.
Merci. Alors, pour les bonnes réponses, on va pas compter sur Meyer tout de suite. Mais on m'enlèvera pas de l'idée qu'un gars qui a été aidé par Dieu, il part quand même avec une petite avance. Vous savez, par exemple, Richard Ferrand, il a la protection de Jupiter. Bah, ça l'aide vachement prévention pour pas être en tôle notamment. Alors, puisqu'on a commencé par des nouveaux, terminons avec un ancien pour avoir des conseils, un quasi-président de la République, Jean Lassalle. Hein, je vous rappelle que ça s'est joué quand même à rien du tout, hein, cette histoire. Quelques millions de voix et quelques cubis. Donc, conseil de Jeannot pour les nouveaux.
Avec les journalistes, il faut être prudent. Il y a des vieux briscards, comme il y a des vieux briscards dans la politique, il y a des vieux briscards journalistes. Donc, il faut les identifier un petit peu, il faut avoir un bon kaléidoscope, je ne sais pas comment on appelle ça, mon futuroscope des journalistes.
Et... un kaléidoscope futuroscope des journalistes.
Voilà.
Voilà, 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 il faut avoir un kaléidoscope futuroscope des journalistes. N'hésitez pas également à vous munir de votre dictionnaire de traduction français Lassalle, Lassalle français, et ainsi que d'un éthylotest, notamment s'il vous parle trop près du visage et que vous devez reprendre la route après. Vous risquez d'avoir des surprises. Est-ce que Jeannot a d'autres conseils?
Moi, je n'ai aucun conseil à donner parce que ça voudrait dire d'abord que si j'avais des conseils, c'est que j'aurais appris quelque chose.
Ah là, vous n'avez rien appris ?
Non, je suis moi aussi un député tout neuf.
Voilà, un député tout neuf, comme tous ces députés tout neufs qui vont faire de la vieille politique antisociale vivement la rentrée de la lutte des classes.
Merci Guillaume Meurice. Ils sont tous au-delà des partis. En fait, on a affaire à des anarchistes, on le savait pas. C'est un exceptionnel.
Des punks à chiens.
Merci Guillaume. Marie-Christine Barrault va aborder ce deuxième sujet de petite dissertation du jour. Les grands-parents s'appellent de moins en moins papy et mamie. La libération de la femme a déclenché la libération de mémé, qui s'invente après consensus familial un nouveau nom inédit, moins conformiste, jusqu'à éventuellement remettre en cause donc son autorité.
Voilà ma grand-mère, Mamie Suze. On l'appelle comme ça parce qu'elle boit de la Suze du matin au soir. Elle a perdu la tête depuis que son chien Teubier est mort d'un coma éthylique. Ça lui a fait un choc et depuis, elle parle le vachnieck.
Un extrait du film Les Tuches. Avec Mamie Suze. C'est un article à lire sur Slate.fr qui nous explique que la façon dont on surnomme nos grands-parents dit quelque chose de notre identité familiale, de notre société. Et depuis 30 ans, il y a de moins en moins de grands-parents qui s'appellent papy et mamie. On leur trouve plein de noms. Il y a un sociologue qui dit qu'inventer un autre nom, ça permet de déhiérarchiser la famille. Vous êtes d'accord avec ça? Quand on donne un autre nom, c'est qu'on brouille un peu les pistes de l'autorité, tout ça. Ça vous
parle? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les grands-parents n'ont plus l'air de grands-parents. C'est vrai que appeler une femme moderne et tout bonne maman, bah ça, oui, ça fait un peu ridicule. Le problème, c'est que on a beau choisir des noms très rigolos et tout, l'environnement ne rentre pas dans le sujet. C'est-à-dire que on continue à dire ah bah tu vois mon petit, voilà mamie qui arrive. Alors, mais c'est pas mamie, je ne m'appelle pas mamie, il continue à parler comme ça. Moi, j'ai fait une grosse bourde, moi, parce que ma première petite fille, j'ai dit, eh ben, on va lui dire Marie-Christine, 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 jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose. Alors, c'est Titit.
Oh, mais c'est mignon.
Titit, c'est mignon.
Oui, mais enfin, je trouvais que ça aurait pu être mieux, mais enfin, bon.
Alors, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'appeler nos grands-parents par les prénoms.
Mais je ne voulais pas qu'elle m'appelle par mon prénom, je voulais qu'elle en déduise quelque chose.
Ah oui, qu'il en sorte un nom.
Voilà, c'était l'idée,
c'est amusant.
C'était qu'elle invente un nom, mais alors comme maintenant j'ai 7 petits-enfants, ils disent tous Titit.
Et
comme
j'ai
d'autres idées, alors de temps en temps j'essaye de glisser un autre nom. Alors il y en a un qui se marre en m'appelant par un autre nom. Bon,
c'est un boulot quotidien, alors pour essayer de changer de braquet comme ça.
Oui, c'est ça, voilà. On se dit, alors avec celui-là, on va essayer autre chose.
Il y a moyen d'avoir MC.
MC, c'est mon frère qui m'a appelé comme ça. Tout d'abord, il m'a appelé MC.
C'est
cool. MC Titit, comme ça. Hop, ça me fait un petit peu.
Est-ce qu'autour de cette table, il y a des noms de grands-parents un petit peu rigolos?
Papy Facho.
Chez les Bidguins, c'est comme ça.
Il y en avait un, voilà, j'en appelais Papy Facho. Les autres avaient plutôt des noms d'Indiens. Tu craches quand ils parlent, mange avec les mains. Et c'était un peu comme ça.
Ah, je vois. Sinon, voilà. Bon. Vous voulez faire un coucou à votre grand-mère?
Non, elle est décédée, mais Bobonne, on l'appelait. Et en fait, il paraît que ça fait un peu vieux en France, mais elle était ravie.
C'est pas un cadeau, Bobonne.
Ah, c'est vrai. Alors, dans les milieux, il y a une hiérarchisation. L'article de Slate explique que, par exemple, bonne maman, c'est dans les milieux un peu chic. Pépé mémé, c'est un peu moins chic, etc. Moi, je salue ma grand-mère qui s'appelle Mimi. Je ne sais plus pourquoi je l'ai appelée Mimi, mais elle s'appelle Mimi.
Et vous?
Eh bien, moi, mon neveu appelle ma mère Mimi aussi.
Dis donc, Charlie, on est dans la même grand-mère.
Il y a de la Mimi, il y a de la Mimi.
Qu'est-ce que vous en pensez, Titit?
Titit sera sur les routes, notamment au Festival de Grignan, le mercredi 5 juillet à 22h au château de Grignan. C'est dans pas longtemps, évidemment. Juliette Arnaud.
Oui, alors.
La petite fine Mimi, donc.
Alors, le livre préféré. Alors, mon livre préféré, c'est Chérie, de Colette. Alors, est-ce que Chérie est un classique? clairement, c'est pas le livre le plus connu de Colette, qui de toute façon n'est pas encore considéré comme un écrivain français majeur. Hein. Elle a le mauvais goût de trop s'occuper des bêtes, des affaires de l'amour, et puis d'être une femme aussi, et surtout. Mais Chérie, ça prend des airs à la mode ces derniers temps, puisque ça raconte, Chérie, l'histoire d'amour entre une femme mûre, de 50 ans, et le très jeune homme dont elle parachève l'éducation. Ding ! Fashion alert ! Le mot « cougar » apparu il y a quelques années et qui depuis nous inonde. Alors comment est-on passé de grand chat sauvage des Amériques au pelage roux, fauve, sans tache, à dame qui aime un homme plus jeune qu'elle ? Mystère, mais la vie n'est que mystère et intrigue. Ainsi, comment Manuel Valls est passé de beau gosse catalan au sang chaud à chat noir 3000 ? Mystère ! Ding ! Fashion alert de rechef. Depuis qu'au sommet de l'État, encore plus récemment, un homme jeune est marié à une femme plus âgée. Mais vous savez quoi, Charline ? La mode, c'est une couillonnade. La vérité, c'est que Chérie, c'est un roman d'apprentissage, tout ce qu'il y a de plus classique, que de toute façon, depuis l'Antiquité, la sexualité et le relais éducatif se mêlent. Bisous les Grecs. Alors ne nous racontez pas que le monde change, on n'est pas des abrutis. Merci, bisous, merci. Le roman, Chérie, trouve sa source dans la vraie vie de Colette. Je vous la fais courte. Et partant pas trop subtil, mais c'est pas grave. Dans la vraie vie, Colette, à un moment de sa vie, a été mariée avec Henri de Jouvenel, qui était le patron de l'Aurore. Et puis ce monsieur s'est mis à la tromper. Alors elle s'est attachée à son fils, Bertrand, qui avait 17 ans. Et l'attachement, vite, est devenu autre chose. Et cette chose a duré 5 ans. Dans la fausse vie, celle qui m'intéresse, moi, toujours beaucoup plus, Léa de Lanval, qui est le personnage féminin de Chérie, connaît Fred. Depuis l'enfance, elle le surnomme Chérie, il devient Chérie pour tout le monde. C'est le fils d'une amie à elle, une cocotte comme elle, une mère célibataire, mais flinguée de thunes. Donc Chérie est un enfant de riche, mais élevé par les domestiques. Il est beau à crever, mais il est un peu méchant, un peu mauvais, comme un chien qu'on n'a pas aimé. À un moment, il y a un témoin qui lui demande « Mais pourquoi êtes-vous aussi méchant ?» Et Chérie de répondre en l'enveloppant d'un regard barbare « Tu peux pas comprendre, ça me console. » La belle époque et ses cocottes ou ses demi-mondaines. Alors, il y avait Liane de Pougy, il y avait Cora Perle, il y avait La Paiva, il y avait Emilienne d'Alençon, mais il y avait aussi Sarah Bernard qui a commencé comme cocotte, ça personne ne s'en souvient. Et puis, évidemment, il y avait la célèbre Nana de Zola. C'est des drôles de mots, hein, demi-mondaine, cocotte, pour un drôle de métier. Vous savez, maintenant, là, il y a le mot putain. Puis ce mot est devenu une insulte. Alors qu'on pourrait dire gens qui font le commerce d'eux. Parce que lorsqu'on cause des gens qui font ça de leur plein gré, sans contrainte, c'est pas une insulte de faire commerce de soi. S'il y a contrainte, c'est esclave le mot. Et ça, c'est pas une insulte, en fait, c'est un drame. Léa n'est pas une esclave, c'est une cocotte, donc. Et à un monsieur qui l'appelle artiste pour la flatter, Léa répond « Artiste ? Oh, vraiment, cher ami, mes amants sont bien bavards. » Léa est donc intelligente et pragmatique, et on la lui fait pas. Par définition, une cocotte, c'est une femme qui s'arrange généralement pour recevoir beaucoup plus qu'elle ne donne. Sauf que ce coup-ci, avec Chérie, le généralement ne fonctionne pas. Léa va se mettre à aimer pour de vrai et ne va s'en rendre compte que lorsque Chérie s'en va pour se marier à une petite jeune femme de son âge. Il va reprendre, comme dit Léa, sa petite vie misérable de jeune homme riche au petit cœur. Et elle, elle va embrasser sa vieillesse en pensant, à voix haute, et je cite Colette, « Mon pauvre Chérie, n'est-ce pas drôle de penser qu'en perdant toi ta vieille maîtresse usée, et moi, mon scandaleux jeune amant, nous avons perdu ce que nous possédions de plus honorable sur Terre. Tout l'art de Colette est là. Ça doit être un truc de gonzesse. Remettre l'honneur à sa vraie place. Merci, bisous, merci. »
Juliette Arnaud, votre livre préféré.
Donc, au monde.
Au monde. Merci Juliette. On va aborder ce troisième sujet avec vous, Marie-Christine Barrault. C'est la correspondance amoureuse de Montand et Signoret qui s'est envolée hier aux enchères à Drouot. Ainsi que donc leurs photos, leurs meubles, des objets, des bijoux. Le couple mythique du cinéma français est donc resté bancable. Et oui, comme on dit dans le milieu du showbiz, bankable. Extrait de cette correspondance.
Mon chéri.
Comment ?
Mon chéri.
Mon chéri ou ma chérie ?
Mon chéri.
Mon chéri. Comme une entête de lettres alors.
Oui, si vous voulez. J'entends le vent, je t'aime.
J'entends le vent, je t'aime. Ensuite ?
La ville est morte depuis que tu es parti, mais la statue est...
Attendez. Depuis que tu es parti, mais la quoi ?
La statue.
Et toujours à la même place, c'est ça ?
C'est ça.
Ensuite ?
Je t'aime.
Je t'aime.
Je pense à toi.
Je pense à toi.
Je t'aime, je t'aime, je t'aime.
Je t'aime, je t'aime. Alors, trois fois je t'aime.
Mon Montand est signé bien sûr dans le Télégramme. Eh oui. Ah donc, vente aux enchères hier des objets et de la correspondance de Montand et Signoret. Nous, ça nous a fait un gros pincement au cœur en lisant cette information. Vendre une intimité aux enchères, même de personnages publics, et c'est peut-être parce qu'on se les approprie, peut-être d'une certaine manière, mais ça vous chiffonne un peu, vous, Marie-Christine Barraud, finalement, ou finalement ça se fait, et puis voilà.
Non, moi ça me chiffonne un peu parce que j'ai vécu la même chose avec mon oncle et ma tante prestigieux, Jean-Louis Barraud et Madeleine Renaud. Après leur mort, tout a été mis en vente, comme ça, une vente aux enchères, et j'étais absolument horrifiée de penser que toutes leurs lettres, même leurs lettres les plus intimes, allaient finir sur la commode d'un Texan ou d'un Japonais, qui ne savait peut-être même pas qui ils étaient vraiment.
Ils ont peut-être acheté la commode de quelqu'un de célèbre, on ne sait pas.
Et c'est, bon, heureusement, en France, la Bibliothèque Nationale s'est réveillée et a racheté les choses les plus importantes, mais moi, j'étais assez horrifiée quand même, parce que je pense que c'est tellement un moment quand on retrouve justement les lettres d'une grand-mère, les lettres de parents. Moi, j'ai eu des moments de grande émotion dans ma vie quand j'ai retrouvé des lettres de mon père à ma mère. J'ai découvert des choses et tout. J'aimerais pas que ce soit des étrangers qui les lisent et puis qui s'inventent une histoire à partir de ça. Je ne sais pas, je ne vais pas juger, je n'ai aucun jugement.
Mais les ayants droit qui donc ont accepté.
Bien sûr, le commissaire priseur explique bien que la famille.
Ah oui, ça s'organise.
Donc chez les barreaux aussi.
Bah, c'était le fils de Madame Renaud, et en l'occurrence, c'était, à mon avis, un sentiment de vengeance et de vouloir justement faire disparaître les traces de ce couple dont il a. Apparemment, ce n'était pas clair, mais c'était psychanalytique comme réaction.
Donc il y a les lettres échangées entre les amants, les télégrammes, les billets. Lettre aussi autographe d'Edith Piaf adressée à Yves Montand, vendue pour 48 100 € contre une estimation de 3 000 à 5 000 €. C'est vrai qu'on n'a pas le nom de l'acquéreur, mais l'idée c'est qu'on a tous envie que ça revienne dans une forme de patrimoine et que ce soit peut-être lu au Festival de la Correspondance de Grignan.
Par exemple, oui, et puis on peut imaginer aussi qu'un jour il y aurait eu une exposition par exemple à la Cinémathèque du couple. Et là c'est plus possible, maintenant tout est dispersé.
Ouais, ouais. Des fois, ils mettent à dispo quand même ceux qui achètent. Ils mettent à dispo pour des expositions.
Ils laissent leur adresse.
Et le commissaire priseur explique, c'est un article du Figaro avec le résultat, les montants de la vente, etc. Commissaire priseur dit, c'est une façon de raconter cette formidable histoire d'amour entre ces deux êtres. C'est magique de pouvoir pénétrer dans leur intimité et de la faire partager.
Enfin,
de
la c'est pendant deux heures, après c'est fini, on ne partage plus rien maintenant.
Ah non, on disperse, on ventile.
C'est dispersé. Ouais.
C'est vrai. Marie-Christine Barraud, on a une petite proposition qui n'est pas indécente à vous faire.
Le sketch de fin d'émission, hein, comme chaque fois.
J'ai entendu parler de ça, mais il y a très longtemps.
Bah oui, mais écoutez.
C'est une vieille tradition.
Attention, parce que je vais vous donner un rôle assez émouvant, parce qu'on s'est dit, Manuel Valls, il a beaucoup de merde en ce moment, et ça lui vient peut-être de loin. Donc on a essayé de retourner dans l'enfance de Manuel Valls. Vous êtes sa maman, Guillaume Meurice, et le petit Manu. Et on va raconter son histoire. Août 62, le petit Manuel Valls naît à Barcelone et rejoint en France son père et sa mère, Louise Angelina Galfetti.
Mon petit Manu, oh, comme il pleure tout rouge. L'année prochaine, tu vas rentrer à l'école.
1er septembre 65, le petit Manuel Valls a 3 ans, il est en maternelle. Manuel aime compter les passes du Barça, les mouvements souples de la cape du Torero et les blancos. Manuel n'aime pas l'argent de poche universel, les caravanes et les élèves qui ne travaillent pas assez.
C'est pas bien les feignants, je les déteste plus que Real Madrid. Quand je serai grand, je réformerai le code du travail.
Va te coucher mon fils, tu es très nerveux en ce moment.
Septembre 67, Monsieur François, le professeur de maternelle, donne à Manuel le premier rôle dans le spectacle de l'école pour le plus grand plaisir de sa mère.
Oh, mon petit chou, c'est très bien.
Oui, enfin, Madame Valls, vous savez, personne l'applaudit, mais je lui ai dit, c'est pas grave, fais comme si.
Non, il est bien. Il s'entend bien avec le petit de la première année, là. Comment il s'appelle ?
Emmanuel. Enfin bon, disons que Manuel a tendance un peu à le snober. Il devrait faire attention, car Emmanuel pourrait aller bien loin.
Septembre 70, Louise Angelina a préparé à Manuel son plat préféré, un risotto. Manuel rentre tôt.
Maman.
Qu'est-ce qu'il y a, mon chou?
J'ai pas d'amis.
Enfin, tu as plein d'amis, Manu.
J'avais, mais ils me veulent plus.
Bah, et pourquoi? Comment? Tu as fait quelque chose de mal?
Non, maman, mais je sais pas. Benoît et Arnaud, ils veulent plus que je joue avec eux à la Marelle.
Bah, enfin, en même temps, t'aimais pas la Marelle, hein?
Oui, bah, c'est pour ça que j'ai dit que je jouais plus avec eux, non!
Et t'as qu'à jouer avec les autres?
Non!
Comment ça, non?
À la récré, on a fait des nouvelles équipes de foot et personne y me veut. Ils veulent plus jouer avec moi.
Et Emmanuel, tu t'entends bien avec lui?
Mais il veut pas de moi non plus dans son équipe. Il dit que je fais pas assez de passes.
Monsieur François avait raison, il fallait pas le prendre de haut.
Je regrette, monsieur François, il m'aimait bien.
Joue avec Jean-Luc.
Mais t'es folle, mais Jean-Luc il frappe tout le monde.
Eh ben tu sais quoi? Fais ton équipe tout seul.
Mais maman, mais on peut pas jouer au foot tout seul.
Mais c'est beaucoup plus facile, vous marquez les buts. Ne lâche rien, mon fils.
Ah maman, fais-moi confiance, je suis pas du genre à lâcher. Allez, je vais dans ma chambre écouter du Francis Lalanne.
Marie-Christine Barrault, Alex Vizorek, Guillaume Meurice, Thomas Bideguin, bravo, avec les rires de Juliette Arnaud.
C'est vrai, ça sublime.
C'est vrai. Marie-Christine Barrault, donc à Avignon, pendant le festival, vous jouez la reine de beauté de Lennon. Vous pouvez nous en toucher un mot?
Oh, c'est une pièce irlandaise, un auteur irlandais, Mac Donagh. C'est une pièce, entre autres, beaucoup sur les rapports mère-fille. Et c'est assez intéressant, des rapports tragiques. Mais alors vraiment tragiques. Pas vraiment le genre de Madame de Sévigné. C'est écrit en plus dans un patois un peu rustique. C'est une très belle langue. Mais c'est très intéressant pour moi de voir un parallèle, justement, entre deux choses qui ont l'air tellement différentes, mais qui sont quand même des rapports mère-fille conflictuels. Vous savez que je résume les rapports mère-fille par une petite phrase que j'aime beaucoup. Ah, c'est la mère qui dit à sa fille, mets ton pull, j'ai froid.
Oh, c'est joli. C'est tellement vrai.
C'est tellement vrai.
Ce sera un petit peu voilà.
C'est au Théâtre des Corsins.
Au Théâtre des
Corsins. À
5h. D'accord, à 5h, donc en Avignon. Ce sera donc le thème un peu, le rapport mère-fille de votre été, avec donc le festival
d'Avignon. Et la pièce aussi à la rentrée, Confidence, c'est encore, sauf que c'est pas mère-fille, là, c'est mère-fils.
Ah, effectivement.
Enfin, ça reste quand même dans la filiation.
Et donc, ce sera au Théâtre Rive-Gauche, Confidence, de Joël Di Pietro.
Et le biopic de Véronique Courgeot, toujours dans cette thématique que vous préparez aussi.
Et puis, on vous retrouve au Festival de la Correspondance de Grignan, du 4 au 8 juillet. On vous voit le mercredi. Mercredi 5 juillet à 22h au château de Grignan. Vous lisez la correspondance de Madame de Sévigné. Merci beaucoup, Marie-Christine Barrault. C'était un plaisir de vous avoir avec
vous,
nous.
Je vais m'ennuyer, je voudrais revenir.
Oh, bah écoutez, on prend bonne note. En tout cas, on vous suivra sur les routes, sachez-le. Marie-Christine Barrault est sur les routes, et notamment en Provence. Merci à toute l'équipe, hein, Nathalie Romero, Sarah Masson, Irène Menahem, Anne-Sophie Ladonne à la réalisation, David Federman à la technique. Et sachez que vendredi, nous serons en direct du Studio 104 avec les Fatal Picard, venez nombreux, inscrivez-vous maisondelaradio.fr. Allez, le mot de la fin, à Benoît Hamon, il lance son mouvement pour refonder la gauche.
Je vais créer un parti politique, je vais fonder une internationale des boys bands, je serai invité chez Michel Field et j'irai serrer des mains sur les marchés.